Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC BFM TV, il est 8h29. Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes maire de Meaux, vous êtes ancien ministre, vous êtes l'auteur de ce livre sur les populismes. Quand les populismes trahissent le peuple, c'est aux éditions Plomb. On va revenir sur votre diagnostic politique, mais d'abord ce qu'il se passe à droite. Qui sera le candidat de la droite? La droite va-t-elle encore éclater? Est-ce qu'il est complexé, Édouard Philippe?
Je ne crois pas, en tout cas.
Non, parce que vous n'arrêtez pas de dire, vraiment, je m'assure qu'il est une droite décomplexée. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous le trouvez un peu complexé, un peu, peut-être gêné par certaines positions?
Ça veut surtout dire que le discours qu'il va prononcer dimanche, je pense qu'on va être nombreux à l'écouter très attentivement, parce que ça va être un moment clé. Ça fait plusieurs mois que Édouard Philippe jalonne un certain nombre d'idées que je crois essentielles, hein, autour du rétablissement de l'ordre dans ce pays, l'ordre dans les comptes. Et l'ancien ministre du Budget ne peut pas vous dire à quel point il attend ça. Et puis deuxièmement, l'ordre dans la rue, l'ordre aux frontières, l'ordre à l'école. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis deuxièmement, il faut incarner le progrès, parce que la droite, elle n'est pas réac. La droite, elle est attentive au progrès économique, parce qu'il faut des entreprises qui soient fortes. Progrès social, parce qu'on a un modèle social qu'on doit sauver, donc réformer. Progrès environnemental, parce que ça suffit de laisser les gauchistes dire n'importe quoi pour préserver l'environnement, alors qu'il y a tant à faire. Et puis aussi scientifique, on n'est pas des anti-vax. Voilà,
Il y a ce que la droite doit être, il y a ce que la droite ne doit pas être. Mais si je vous pose la question, c'est parce que j'ai toujours du mal à comprendre ce qu'il y a derrière cette expression de droite décomplexée. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une droite complexée, une droite décomplexée. C'est quoi une droite décomplexée?
D'abord, il se trouve que j'ai défendu ce concept parce que il y a pas mal d'années maintenant, parce que j'en avais marre qu'on s'excuse toute la journée d'être de droite. Voilà, vous savez, en France, dans beaucoup de milieux, quand on est de droite, les gars vous regardent en disant mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un problème dans son enfance. C'est tellement plus moderne d'être de gauche. Enfin bon. Et donc moi j'ai assumé de dire qu'en réalité la droite décomplexée, c'est une droite qui est hermétique, totalement étanche par rapport au RN, l'extrême droite, qui combat l'extrême gauche de la même manière parce que LFI égale RN, ce sont des populistes, comme je l'ai expliqué dans mon livre. Et ensuite, on dit ce qu'on a à dire. Je suis maire de Meaux. Depuis des années, je défends l'idée qu'on doit rétablir la sécurité, qu'il faut arrêter de mollir, avec des caméras, avec des policiers municipaux armés, mais qu'il faut aussi avoir une approche qui soit décomplexée avec l'ensemble de nos concitoyens, qu'on soit par exemple très ferme sur les questions de laïcité, mais qu'on arrête de stigmatiser les gens au regard de leurs convictions, de leur religion. Bref, une droite décomplexée sur des sujets
cool,
où on est caricaturé.
Ça peut être cool d'être de droite?
Le débat, il est pas entre cool et pas cool.
Non, parce que vous avez l'air de dire il faut un moment oser dire, être de droite, c'est...
Parce que, en vrai, beaucoup de gens à droite ont calé quand ils étaient au pouvoir. Et c'est ça que nous avons payé. C'est-à-dire que, c'est ce que d'ailleurs j'explique dans mon livre en parlant des 7 péchés capitaux. Les petites compromissions, les reculades, les demi-mesures, on veut réformer les retraites puis on n'y va pas. Sur la sécurité, on fait que la moitié du chemin. Sur l'immigration, au lieu d'assumer une politique d'immigration choisie, on s'excuse tous les 4 matins. C'est ça qu'il faut changer. Mais dans le même temps, on le fait de manière moderne. Donc le débat, il n'est pas entre cool et pas cool. Le débat, il est-ce qu'on est capable, à droite, de faire ce que les Français attendent pour montrer que la démocratie, que dans l'état de droit et dans la démocratie, on peut être efficace.
Et vous espérez donc qu'Édouard Philippe fera ses preuves sur ce point-là dimanche. Mais ça veut dire qu'à vos yeux, il doit encore faire ses preuves.
Mais c'est pas, il doit encore faire ses preuves. C'est son premier meeting. C'est un discours majeur.
Non, mais il y a une histoire de meeting, mais il y a aussi son programme, il y a de nombreuses interviews qu'il a pu accorder. Je veux dire, il y a quand même déjà beaucoup de choses.
Et bien sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Simplement, mon point, c'est que c'est un discours. Moi, je crois beaucoup au retour de la politique par des professionnels, parce que c'est un métier. Ce que Jacques Chirac nous a appris, il faut avoir été, pour être prêt, pour les Français, maire, député, ministre, élu, battu, et un jour les Français, ils considèrent ou non que vous êtes prêt. Bon, Il a fait ce parcours, Édouard Philippe. Et ça fait une vraie différence avec ce que nous vivons depuis des années avec le macronisme.
Le macronisme. Bon. Pour vous, le macronisme, bah, hors sol, n'ayant pas affronté avant l'élection présidentielle d'élection locale.
C'est quoi? Quand on interdit aux maires d'être députés, ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des types qui sont très respectables, oui, mais totalement perchés.
Interdire aux maires d'être députés, c'est pas Macron qui l'a élu, enfin, qui l'a décidé.
Mais je suis pas à dire le contraire. C'est Hollande. Mais vous allez pas me penser que j'ai
mais
soutenu Hollande.
Mais il me semble que la droite ne s'y était pas totalement opposée.
Totalement. Alors, je peux vous dire qu'on était, mais tous de colère, d'imaginer qu'on puisse interdire à des Français qui tous les jours sont aux prises avec la réalité de venir voter, débattre de la loi et représenter la France profonde.
Ça doit faire
profonde,
partie des points. Il faut supprimer ce non-cumul des mandats. Il faut revenir, on peut être député-maire.
En privé, tout le monde le dit. Tout le monde dit que c'est une erreur.
C'est juste,
personne ne
le confirme.
Bon, pourquoi?
Ça et le quinquennat d'ailleurs. Les deux en général.
Le quinquennat, c'est plus compliqué. C'est une réforme constitutionnelle. Mais en tout cas, de permettre aux maires d'être députés, ça veut dire quoi demain? Ça veut dire qu'enfin, des gens qui font, comme c'est mon cas, toutes les semaines, des permanences, qui voient les gens, qui prennent des décisions, qui sont face à des problèmes incroyables tous les jours en matière de sécurité, en matière de prévention d'inondations, de phénomènes sanitaires, etc., vont pouvoir à l'Assemblée veiller ou au Sénat à ce que la loi soit conforme.
Mais Bruno Retailleau, c'est aussi un élu local.
Oui, bien sûr.
Donc cette qualité-là, il l'a.
Mais je n'ai pas dit qu'il ne l'avait pas.
Non, parce qu'on sent quand même, globalement, vous n'avez pas encore totalement rallié Édouard Philippe, mais on sent qu'en tout cas, vous n'êtes pas dans un chemin de ralliement ou soutien à Bruno Retailleau, il faut être honnête.
Soyons là-dessus très très précis. Point numéro 1, la France va jouer son destin en 2027. Est-ce que elle va tomber, comme malheureusement d'autres pays, sous les griffes des partis extrémistes, populistes, qui racontent n'importe quoi et qui bénéficient aujourd'hui d'un succès populaire considérable dans de nombreux pays dans lesquels on fait le procès de l'inefficacité de la démocratie. Ce qui est fou, mais c'est la vérité. Bon, donc, est-ce qu'on est capable de proposer une alternative à ce danger absolu de voir le RN ou LFI en finale qui rendrait le pays dans un état de tension extrême, parce que toutes les propositions qu'ils font, les uns comme les autres, que ce soit Mélenchon ou Le Pen, sont totalement dingues.
Si c'est le cas, vous votez blanc. Si c'est le cas, vous votez blanc. Si vous vous retrouvez qu'un deuxième tour,
je vous promets qu'on se retrouvera ce jour-là, mais je vais tout faire pour éviter ça.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, vous faites partie de ceux qui disent qu'il y a un signe égal entre les deux.
Mais il y a un signe égal entre les deux, et ne pas dire cela est irresponsable. Bon. Premier point. Deuxième point, il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat à droite. Je pense que la France aujourd'hui attend une politique de droite. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'en 81, les gens voulaient de la gauche. Très bien. Aujourd'hui, ils veulent le rétablissement de l'ordre et du progrès. Bon. Donc, il faut un seul candidat de droite. Nous en avions 10 ou 15, je ne sais plus, il y a 6 mois. On a un peu progressé, on n'a plus que 3. Bon. Grosso modo, je vais un peu vite. Retailleau, Édouard Philippe, Attal. Bon. À partir de là,
Vous rajouter David Lisnard.
Non, justement. Pourquoi je dis 3? Oui, non, mais attendez, pourquoi je dis 3? Parce que il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir un parti, des militants et des moyens financiers. Sinon, on fait semblant.
Donc, David Lisnard, il fait de la figuration.
Excusez-moi, mais on commence maintenant à rentrer dans
donc
le dur.
Donc, on retient. Bon, Retailleau, Attal et
donc, je pense que maintenant, les choses doivent être clarifiées par rapport à cela. Nous avons 3 candidats. Ils n'ont pas voulu les uns et les autres de primaire. Moi, j'étais pour, mais ils n'ont pas voulu. Bon, donc ça veut dire que ça va se départager comment? Bah, probablement par des sondages qui, je pense, vers octobre-novembre, vont permettre de voir qui fait la différence en espérant qu'il y en ait un des 3 qui fasse la différence et surtout que les 2 autres veuillent bien entendre que l'intérêt supérieur du pays et qu'ils viennent se retrouver pour éviter l'arrivée de l'extrême droite ou de l'extrême gauche.
Parce que Jean-François Copé, quand on écoute Laurent Wauquiez, qui donc, ces derniers jours, a dit son soutien à Édouard Philippe, en tout cas, il dit par son histoire, par les responsabilités qui ont été les siennes, je crois qu'Édouard Philippe peut incarner l'ordre et le sérieux permettant de redresser la France. Lui qui, il y a encore quelques mois, disait tout sauf Édouard Philippe. Bon, il dit surtout, le risque est le suivant, si tout le monde maintient sa candidature, notre seule contribution aura été d'éliminer un candidat de droite et permis la qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour. Il demande donc à Bruno Retailleau de se retirer.
Alors, moi, mon point, c'est qu'il faut qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 1 et pas 3. Bon, ça veut dire que, je suis pas le seul à le dire, effectivement, il y a Laurent Wauquiez, mais enfin, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, Michel Barnier, enfin, je ne les fais pas tous. On est tous à dire, mais attention.
Mais on décide quand? C'est-à-dire que si on décide aujourd'hui, en effet, c'est plutôt Édouard Philippe.
Aujourd'hui, il y a un moment où chacun veut montrer qu'il est le meilleur. Ok, super. Moi, je dis juste qu'il faut que, à l'automne, dans une zone qui serait, je sais pas, moi, novembre, voilà, il me semble, enfin, novembre, décembre maximum. En tout cas, on fait pas partir les Français aux fêtes de Noël sans qu'ils sachent qui va être le candidat de la droite.
Et sur quels critères? Bon. Est-ce que c'est juste les sondages?
Bah, écoutez, on n'a pas le choix, ils ont pas voulu faire de primaire. Bon, donc à partir de là, il y a pas 36 solutions. Si, les différents sondages d'opinion montrent qu'il y a une dynamique qui se crée autour de l'un des trois, ce que j'espère, parce que s'ils sont à touche-touche les trois, alors là on peut fermer la maison. Mais s'il y a cette dynamique qui se crée, bah, j'espère que les deux autres entendront ce message de responsabilité.
Mais à ce stade, Jean-François Copé, vous-même, vous ne choisirez que celui qui sera le mieux à même, le plus haut dans les sondages, ou est-ce que vous choisirez sur d'autres critères, vous?
Ben écoutez, ce sera les deux. C'est évident que moi, je ne vais pas soutenir quelqu'un, si c'est le cas, qui se montrerait, comment dire, trop bienveillant à l'égard du Rassemblement National. Voilà. Parce que moi, je suis de l'école chiracienne, je sais trop les dangers absolus de l'extrémisme, parce qu'en réalité, c'est le double langage permanent. Regardez le.
Ça, c'est l'alerte que vous lancez à Bruno Retailleau. Enfin, à un moment, oui, il faut décrypter, il faut le dire. C'est à Bruno Retailleau que vous vous adressez là ce matin.
Vous vous souvenez peut-être pas, parce que vous interrogez beaucoup de monde, mais c'est sur votre plateau qu'il y a quelques mois, j'ai évoqué l'idée
qu'il y a un risque
de schisme au sein de ma famille politique entre ceux qui font preuve d'une bienveillance, ou en tout cas de comportement ambigu, et ceux qui sont extrêmement fermes par rapport au Rassemblement National. Moi, je mets un signe égal entre le Rassemblement National et LFI. C'est un point de divergence que j'ai avec Bruno Retailleau et probablement avec un certain nombre d'autres militants et sympathisants, mais de la même manière que je n'ai pas accepté que François-Xavier Bellamy vote une motion de censure présentée par Jordan Bardella au Parlement européen contre la commission présidée par von der Leyen. Dieu sait si j'ai des divergences avec la.
Avec le RN.
Mais on ne vote pas une proposition du RN. Mmh. Enfin, écoutez, ou alors je ne sais pas où on habite. Il y a trop de divergences entre nous. Regardez, à chaque fois que le RN fait une proposition, combien on est dans la démagogie. Même sur la canicule, ils sont allés, alors qu'ils ont craché sur le changement climatique depuis des années. Les gars, la semaine dernière, sans rire, vous disent, on vous propose un plan de 200 milliards pour financer les climatiseurs.
C'est devenu, ils ont coupé en 10 la somme.
En 24 heures, on est passé à 40 milliards. Et alors donc, quand même, il y a quelques journalistes qui ont fait leur travail et qui ont dit, mais vous pouvez nous expliquer comment vous faites? Et là, ils nous ont dit, on va le financer
par un prêt
auprès de la Banque Centrale Européenne. D'habitude, ils détestent tout ce qui est européen, maintenant, ils les trouvent formidables. Mais surtout, la Banque Centrale Européenne ne fait pas de prêts. Donc c'est là où je dis
problème. Donc en fait c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Alors je prends cet exemple, malheureusement c'est souvent vrai. Et d'ailleurs ceux qui votent RN, les études le montrent, c'est des gens qui en ont marre. Donc à nous d'aller leur dire, mais attendez, c'est nos enfants. Et donc arrêtez de penser que la réforme c'est sinistre. La réforme c'est pas sinistre, c'est pas du sang, de la sueur et des larmes comme je l'entends dire. C'était Churchill qui a dit ça en 40, au moment où c'était la déportation, la guerre et la mort. Là il s'agit de savoir si on reporte un peu la construction du rond-point près de chez nous, ou si on dérembourse de l'Iprane. C'est quand même pas les mêmes enjeux.
En gros, c'est ça la question. C'est effectivement la question de notre modèle social, la question de nos investissements. Jean-François Copé, vous disiez, moi je mets un signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, entre le RN et LFI. David Lisnard, qui était mon invité à ce même micro il y a deux jours, disait, face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai pour n'importe qui.
Oui.
Sauf Jean-Luc Mélenchon. Okay.
Enfin, tout ça, c'est bien gentil, mais ça, c'est des débats de lendemain de premier tour. OK? L'étape aujourd'hui, elle est pas d'un.
Mais vous accepterez de choisir? Au lendemain d'une deuxième tour?
Ben, on en reparlera. Moi, j'en suis pas là. Aujourd'hui, tout mon combat, c'est d'empêcher ça. Vous voyez? Parce que, je rappelle un petit détail.
Oui, mais pardon. J'ai toujours du mal avec ça. Je comprends très bien qu'il y ait des étapes et c'est très important. Mais, au fond, vous êtes déjà en train de dire que certes il y a un signe égal entre les deux, mais qu'à partir du moment où les deux seraient en finale pour l'élection présidentielle, quand même vous choisirez.
Ben, je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. Mon combat, il est d'empêcher ça. Mon sujet numéro un, c'est de dire LFI égale RN. D'ailleurs, ils se sont comme par hasard retrouvés les deux pour voter ensemble 40 milliards de hausses d'impôts. Les mêmes amendements, ils les votaient ensemble, l'extrême gauche et l'extrême droite, à l'automne dernier au budget. Et on n'a pas encore tout vu. J'attends avec une très grande inquiétude le budget à l'automne. Dans un moment où la France est dans une situation financière catastrophique, les marchés sont extrêmement fébriles, parce qu'ils se disent que ce pays est bloqué à cause de cette folle dissolution de Macron, qui a conduit, comme un certain nombre d'entre nous l'avions prédit, à cette situation dramatique de blocage institutionnel pendant 3 ans.
Qu'est-ce qu'on fait? Quel modèle économique? Vous avez peut-être lu ce matin Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien, dit objectif 0% de déficit en 2037, je crois. Vous y croyez à ça?
Vous voyez qu'il y a une vraie convergence en fait entre ce que dit Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Édouard Philippe. C'est donc bien quelque part qu'on devrait être capable de recréer ce qu'on appelait autrefois l'UMP.
C'est un candidat de droite. Gabriel Attal, c'est un candidat de droite, à vos yeux.
Là, il est passé à droite. Enfin, il était pas à droite toute sa vie.
Vous avez l'air de vous en désoler. Vous me disiez à l'instant que c'était cool d'être de droite.
Ben non, pourquoi être désolé?
Non,
au contraire.
Non, donc
pas
il est.
Tout.
Donc
c'est au contraire. Je vous dis
faut
tout.
Faut qu'il assume. En fait, peut-être que c'est ça que vous avez demandé.
Honnêtement, chaque jour qui passe, il m'a l'air d'être de plus en plus à droite. Mais surtout, ce que je vois, c'est les conditions de reconstitution d'un grand parti de droite et du centre qui doit aussi préparer les législatives dans la foulée pour des candidats uniques. Parce que sinon, on n'aura pas la majorité absolue. Et si on n'a pas la majorité absolue, l'enfer continue.
Jean-François Copé, vous disiez à l'instant la tentation du RN notamment pour un certain nombre d'électeurs, c'est parce qu'ils en ont marre, dites-vous. Est-ce que vous avez vu que sur le volet de la justice, il y a ce vide juridique, on découvre et c'est encore plus vertigineux après les drames que la France vient de traverser, que Liana, que Louis, qu'il y a des mineurs criminels qui vont se retrouver libérés parce que on n'a pas modifié à temps les textes législatifs, ceux qui sont en prison pour crime de manière préventive entre 16 ans et 18 ans, qui se retrouvent libérés, avec des inquiétudes que ça suscite. La famille d'Elias qui ne dort plus depuis 3 jours, avec l'inquiétude que les assassins de leur fils ne puissent être libérés, avec même des erreurs juridiques. On l'a su ce matin, c'est une information BFM TV, un majeur justement, un homme de 20 ans qui était accusé de tentative de meurtre sur 2 victimes et également accusé par son co-détenu de sévices en prison, a été libéré par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rouen, alors qu'il y a un risque de récidive chez cet homme-là. Comment vous réagissez à ça? Je ne sais même plus quoi dire quand on découvre l'ampleur des erreurs, des incohérences.
Alors, d'abord, vous l'avez rappelé, maire de Meaux, je suis par ailleurs avocat et je ne connais pas le dossier. On ne le connaît pas autrement que.
Je ne vous demande pas sur ce dossier-là,
Attendez, sur ce dossier d'abord, il faut bien vérifier parce que votre chroniqueuse qui a expliqué tout ça a dit que ça pouvait peut-être être une erreur d'appréciation du juge au regard du fait que peut-être que en fait il était majeur et pas mineur.
Ce vide juridique qui a créé
non, parce que
une
du coup il y a pas de, dans ce cas il y a pas de vide juridique, donc ça peut être une erreur humaine, elle doit être corrigée. Bon, deuxièmement, ce vide juridique par ailleurs doit être corrigé d'urgence. Enfin, troisième point, parce que je vais jusqu'au bout de la logique.
Pardon, ils avaient un an pour changer la loi. Ça fait un an. Ça fait un an qu'ils pouvaient changer la loi et on se réveille le jour J.
On est tous d'accord. Et ça, il faut pas s'étonner que cela conduise effectivement la population à être exaspérée. En même temps, je lui demande d'être aussi exigeante vis-à-vis du RN que vis-à-vis des partis de gouvernement et de LFI. Parce que quand c'est le RN et LFI disent n'importe quoi, disent « Oh, c'est pas grave, c'est Le Pen, c'est Mélenchon, ils exagèrent », nous, on fait une erreur, on en prend plein la figure. Donc moi, j'invite quand même à ce que tout le monde soit sur le même plan, y compris quand c'est les journalistes qui les interrogent. Troisième remarque, après vous avoir dit tout ça, c'est qu'effectivement, s'il y a une erreur, elle doit être corrigée d'urgence. Je ne veux pas qu'on jette l'opprobre sur l'institution judiciaire. Je peux témoigner en tant que maire de Meaux.
Mais moi non plus, je ne veux pas changer
l'opprobre. Non, je vous ai pas dit que vous l'aviez dit.
Le problème, c'est quand même les faits.
C'est cette inquiétude que ça suscite. Mais écoutez, ça doit être corrigé de toute urgence et la justice a les moyens de le faire. On peut faire appel d'une décision, y compris le parquet, tout ça peut être regardé et corrigé très vite. Première remarque. Deuxième remarque, le vide juridique doit être comblé par la loi d'urgence. Enfin, troisième point, attention à ne pas jeter l'opprobre, je le répète, sur une institution judiciaire qui, par ailleurs, dans de nombreux sujets dont personne ne parle, fait un travail remarquable. Je peux témoigner en tant que maire de Meaux de ce que fait dans le ressort judiciaire des personnels, qu'ils soient magistrats, du siège, du parquet, un travail incroyable pour essayer de contribuer à la mission de rendre la justice dans ce pays. Et croyez-moi, vu les moyens qu'ils ont, on est loin du compte. Car la réalité, c'est qu'il y a un point, je suis désolé de le dire, il y a un manque de moyens chronique. On a 2 fois moins de magistrats que dans la moyenne européenne. Il y a des problèmes de modernisation du fonctionnement qui, malheureusement, expliquent beaucoup de choses. Ensuite, vous avez l'erreur humaine. Cette erreur doit être corrigée et, le cas échéant, sanctionnée. Mais c'est autre chose.
Merci beaucoup Jean-François Copé d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes maire de Meaux et votre livre « Quand les populistes trahissent le peuple » c'est aux éditions Plon. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.